Marie, apprends-nous à prier.
C'était un homme de prière. Je veux dire par là que il était totalement présent à vous. Quand il parlait avec nous, vous étiez seul à exister. Il n'y avait pas de temps. Il n'a jamais regardé sa montre, je crois. C'est assez étonnant, ça. Quand on sait tout ce qu'il avait à faire, et aussi toute la souffrance physique qu'il a portée. Alors il y avait une paix assez extraordinaire, et c'est ça, c'est pour ça que je parle de prière. Parce que je pense qu'en même temps qu'il y avait cette attention à autrui, il était avec Dieu, il priait. Je me souviens aussi de l'avoir vu dans la chapelle, ou d'avoir quelquefois eu la joie de concélébrer avec lui. C'est des choses assez étonnantes, le recueillement de cet homme. C'était un homme à la fois recueilli et présent à vous. Je crois qu'il était en Dieu, vraiment.
Est-ce qu'il était en odeur de sainteté ?
C'était un homme de Dieu, si vous voulez. Mais la sainteté, c'est la reconnaissance par l'Église de cette réalité, de la présence, je dirais, totale de la grâce qui s'empare d'une personne humaine, qui conduit une personne humaine, de la fidélité totale au Christ, de la perfection dans la charité du disciple du Christ. Ça, on le sentait, que son cœur était là. D'ailleurs, sa devise « De tous, tous » qui s'adresse à la Vierge Marie était aussi très significative de cela. Il référait comme spontanément les événements au dessein de Dieu. Il y avait toujours la providence, même au moment de l'attentat. Il a tout de suite pensé que c'était le jour de la fête de Notre-Dame de Fatima. Donc ces jours-là lui venaient spontanément à l'esprit. Et c'est un signe aussi qu'il était avec Dieu dans la prière. Et là, on peut parler de sainteté, mais c'est des choses à laquelle on réfléchit après, vous voyez.
Vous êtes un cardinal émérite théologien de la maison pontificale. Quels étaient les sujets que vous abordiez avec Jean-Paul II ?
Mon travail quotidien, c'était lire tous les discours qu'il devait prononcer, donner un avis théologique ou faire attention à la rectitude de la formulation, aux ambiguïtés qui peuvent permettre de l'interpréter mal, ou également une uniformisation des textes, parce que les collaborateurs étaient nombreux. Suivant la matière, on demandait à différentes personnes d'écrire ces textes pour lui, parce que ce n'était pas lui qui avait le temps de faire tout cela, il relisait, il faisait sien. Alors, il y avait tout ce travail de préparation théologique, et c'était, si vous voulez, mon travail quotidien. C'est extraordinaire le nombre d'interventions qu'il a eues, c'est l'activité qu'il a eue. Quand on travaillait dans des groupes de travail, c'était très intéressant, très détendu, je dirais. Il n'y avait pas de tension. Alors on se mettait vers midi à la table de travail, et vers 1h30 on passait à table pour manger, et c'était encore des repas de travail qui terminaient vers les 3h. Il était très détendu, il aimait faire des plaisanteries, mais en même temps c'était du travail, il ne perdait pas le fil de notre occupation, le but qu'il poursuivait. Et il avait un tact pour s'adresser aux gens. Il nous mettait à l'aise, il respirait la liberté. C'était un homme libre. Et il l'a communiqué. On ne s'est jamais senti embarrassé, coincé avec lui. Même si j'étais un peu timide, hein, mais c'est autre chose, ça.
Alors, je crois que vous-même aviez parlé de la théologie de la communication en parlant de Jean-Paul II. Est-ce qu'il était le pape de la communication ?
Il l'a été certainement, parce qu'il avait naturellement des grands dons. Quand on voit maintenant encore des images télévisées qui repassent, c'était extraordinaire, sa présence à l'écran. Ça, c'est un don de nature, mais qu'il a vraiment mis au service de son dessein missionnaire. C'était un grand apôtre, un grand missionnaire, et il n'a pas joué avec ça. Il avait des dons qui l'ont beaucoup servi, c'est clair. Et il a compris alors aussi l'importance des moyens modernes de communication.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière de transmettre la théologie ?
Mais vous savez, la théologie, on a fait toujours la même chose. Il faut de la prière, il faut de la lecture, il faut de la réflexion, de la pensée. Et s'il n'y a pas du recueillement et du silence, on peut communiquer les fruits de la théologie. Mais c'est une seconde étape. Mais on ne fait pas de la théologie avec des formules de stars de télévision.
Vous avez parlé du tact de Jean-Paul II pour s'adresser aux personnes.
Il avait beaucoup d'intuition. Il savait repérer des personnes qui avaient des grands drames, qui souffraient par exemple. C'est assez étonnant. Il avait une mémoire étonnante aussi. Je me souviens qu'un évêque français m'avait dit, il avait passé les toutes dernières années, hein, les visites à Limina, où il était très fatigué. Et il lui apportait les saluts d'un autre évêque de Nouvelle-Calédonie, je crois, si je ne me trompe pas. Et le pape a dit oui, très bien, mais il y a aussi celui-ci, il se souvenait du nom. Il avait une mémoire extraordinaire, hein, pas seulement des noms des personnes, mais il se souvenait des personnes et de leurs noms. C'était toujours cette attention à autrui qui m'a beaucoup frappé.
Alors, est-ce qu'il y a eu une parole qui vous est restée ?
C'est « n'ayez pas peur », parce qu'il y avait une expérience très profonde de ce que vivaient les gens dans son pays. Et les régimes totalitaires, l'arme de gouvernement, c'est la peur. Alors, si les gens réussissent sur la base de la foi, de l'espérance, de la foi, à se libérer de la peur, ces régimes perdent pied. Je crois que dans les profondeurs du peuple chrétien qui avait entendu cette voix, il y a eu cette espèce de libération de la peur. Et ceux qui vivent en utilisant la peur sont désarmés.
Éminence, quel souvenir gardez-vous au moment de la mort de Jean-Paul II ?
Je garde un souvenir très pacifié. Très pacifié dans la douleur, parce que l'image qui m'a le plus frappé, c'est celle du dimanche précédent sa mort, quand il est apparu à la fenêtre de son appartement sur la place Saint-Pierre, et il a voulu parler aux gens, et l'émotion l'a empêché de parler. C'était très émouvant de voir ça. On a su après que c'était ainsi, parce que les médecins nous ont dit qu'il aurait pu parler médicalement. Mais il était tellement pris par l'émotion, il savait que c'était le dernier adieu sur cette terre avec nous. Alors cette image m'est restée très très forte. Je l'ai vu après sa mort dans son cercueil. Il avait des traits très détendus, comme souvent les morts juste après la mort se reprennent presque un visage de jeunesse. Mais il y a eu un climat de paix assez extraordinaire qui a duré ensuite, par exemple, au moment des funérailles, au moment quand il y a eu les réunions de cardinaux, tout cela, c'était, il était là.